Merci Jésus. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, nous voulons que tu nous aides à nous abandonner entièrement à toi. Que tu nous aides, Seigneur, à toujours compter sur toi, quels que soient les besoins dans lesquels nous nous trouvons. Apprends-nous, Seigneur, à abandonner nos vies entre tes mains, car c'est la seule manière pour nos vies d'être en sécurité absolue. Merci pour tout, pour ce temps, ce moment de louange et d'adoration. Le moment arrive, ô Dieu, où nous devons nous asseoir à tes pieds pour, Seigneur, te donner toute notre attention afin que tu nous parles. Nous voulons que ta parole ce matin soit une parole, Seigneur, qui rafraîchisse nos cœurs, une parole qui apporte bénédiction à notre âme, une parole qui manifeste ta présence parmi nous. Saint-Esprit, c'est devant toi que je me tiens, c'est devant toi que nous nous tenons, comme un seul homme, afin de recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun de nous. Ce matin, nous voulons recevoir une parole qui vient tout droit de ta part. Nous voulons recevoir une parole qui va être une vraie et réelle bénédiction pour chacun de nous. Alors donne-nous cette capacité à recevoir ta parole, à l'assimiler, à l'intégrer dans notre vie. Seigneur, et à marcher selon elle, car c'est en marchant selon ta parole, ô Esprit de Dieu, que nous marcherons par la foi. Bénis ce moment, ce sont des moments solennels, des moments, Seigneur, où nous nous tenons devant toi le Créateur des cieux et de la terre, devant toi qui, par ta seule volonté, a appelé à l'existence, Seigneur, l'univers et tout ce qui nous entoure, devant toi qui tient nos vies, entre tes mains, comme des grains de sable. Devant toi qui nous prête le souffle de vie qui nous anime. Devant toi qui a un dernier mot, Seigneur, sur notre vie. Oui, c'est devant toi que nous nous tenons afin que tu nous parles. Fais-nous du bien, Seigneur, et que cette parole puisse vraiment, vraiment être une nourriture exquise pour notre âme. Un repas plantureux pour notre être. Donne-nous de manger ta parole, Seigneur, et ce par ta grâce, et ce par le pouvoir de ton Saint-Esprit, et ce par la capacité de ton Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous allons continuer donc avec notre thème de la fois dernière, à savoir comment expérimenter au quotidien le règne de Dieu dans notre vie. Alors que nous faisons partie du royaume de Dieu, eh bien, comment vivre, comment expérimenter la plénitude de ce royaume? Comment, alors que nous marchons avec le Seigneur, nous approprier, mes amis, des ressources intarissables de son royaume? Car les provisions de Dieu sont incommensurables. Alléluia. Dieu ne peut jamais se retrouver à sec. Alors que nos ressources en nous, alors que nos économies en nous, eh bien, sont limitées. Mais pour Dieu, eh bien, ses richesses sont éternelles. Alléluia. Sont inépuisables, sont intarissables. Comment nous en approprier? Voyez-vous? Car c'est une chose de faire partie du royaume de Dieu. Royaume dans lequel nous sommes entrés, le jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, le jour où nous sommes passés de la mort à la vie par la nouvelle naissance, qui est donc une des conséquences extraordinaires et merveilleuses de la présence pour la toute première fois de Jésus-Christ par son Esprit dans chacun de nous. Depuis ce jour, eh bien, nous sommes devenus des citoyens célestes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a donné un passeport extraordinaire. Nous faisons partie de son royaume. Et comme nous l'avons vu en plus d'une fois, nous faisons partie désormais de ce cortège triomphal à la tête duquel il y a le Seigneur et le Seigneur seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisque nous avons un Dieu, mes amis, dont les ressources sont inépuisables, sont intarissables, il est alors important que nous sachions comment faire, que devons-nous faire pour essayer, alors que nous sommes sur cette terre, et quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, comment expérimenter ces richesses, comment expérimenter ce ressource inépuisable de Dieu. Et nous avons donc parlé d'un principe sur lequel je vais revenir un tout petit peu, avant d'aborder un deuxième principe. Mais avant de revenir sur le principe que nous avons examiné la fois dernière, qui est donc celui de donner avant de recevoir. C'est un principe qui sous-tend, mes amis, le royaume de Dieu. Dieu lui-même est un grand donateur. Avant donc de revenir un tout petit peu là-dessus et d'avancer et d'examiner ensemble à partir de la parole de Dieu le deuxième principe, nous allons lire un premier texte dans le livre d'Ecclésiaste, deux versets, un tiré du chapitre 2, un autre tiré du chapitre 3. J'ai déjà eu à vous le dire à plus d'une fois, vous l'avez remarqué, j'ai l'habitude d'essayer de faire le tour des versions lorsqu'il s'agit de prêcher sur un verset. Voyez-vous, et ça je vous encourage très fortement, donc d'avoir deux ou trois versions de la Bible. Cela vous permet de comprendre, car chaque version, eh bien, dans la plupart des cas, reflète la couleur théologique des traducteurs. Vous voyez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des révisions et des révisions eux-mêmes, de refontes, des versions bibliques. Et je demandais à ce que nous lisions. Attendez. Voilà. Je vais vous lire, c'est Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. Je vais vous lire donc, dans la version Louis II, la nouvelle version Louis II, qui est sortie il y a même pas cinq ans. Voilà comment cette version l'exprime et tant d'autres de la Bible. Verset 24. Rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, très bien, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. Goûter le bonheur dans son travail. Verset 13 du chapitre 3, nous lisons. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, cela est un don de Dieu. Et enfin, dans le Nouveau Testament, chapitre 5, la guérison de cet infirme à la porte de Bethesda. Il nous est dit, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17, « Aussitôt cet homme retrouva la santé, après que le Seigneur soit passé par là, il prit son lit, puisque c'était un homme grabataire, donc l'a bloqué, enfin paralysé, il prit son lit et se mit à marcher. » C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Voyez jusqu'où ça va le fanatisme religieux. Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Verset 17, c'est le verset qui nous intéresse. Je vous ai fait lire tout cela pour essayer de vous situer un tout petit peu le contexte. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. » Gloire à Dieu. Comme vous êtes très intelligent, eh bien, vous avez tout de suite compris de quel principe il va être question dans notre prédication d'aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce deuxième principe, j'aimerais revenir un tout petit peu sur celui que nous avons vu la fois dernière. S'il vous plaît, il y a moyen de m'arrêter un peu. Voyez, ma Bible a vieilli. Voilà. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu sur le premier principe que nous avons examiné ensemble. Un principe, mes amis, qui est très important parce que toute l'action de Dieu s'articule autour de ce principe-là. C'est le principe qui consiste à donner. Gloire au Seigneur, alléluia. Donner. Mes amis, Dieu est un Dieu qui se révèle au monde comme étant le plus grand donateur. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, eh bien, est le produit de son don. Que nous soyons intelligents, que nous jouissons d'une bonne santé, que nous ayons un bon emploi, que nous prospérions à tous égards dans nos affaires, que nous ayons une épouse ou un mari qui nous aime à mort, enfin, qui nous aime d'amour tendre, que nous ayons tout cela, eh bien, nous ne devrions pas considérer cela comme étant le produit de nos propres efforts, de notre intelligence, de notre puissance cérébrale, mais plutôt comme étant la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Et si c'est la grâce, c'est que Dieu, de manière tout à fait généreuse, nous a donné, que ce soit la bonne santé, que ce soit l'intelligence qui nous permet aujourd'hui d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres, que ce soit celle ou celui qui partage notre vie, que ce soit les enfants, que ce soit les affaires, que ce soit l'Église, la borne. C'est aussi un don que le Seigneur nous a fait, oui ou non? Vous savez, il y a des églises où les gens, aussitôt que le culte commence, eh bien, ils commencent à se poser toutes sortes de questions. Parce qu'il y a des disputes, parce que hier, eh bien, l'ancien s'est chamaillé avec la diaconesse, ils s'en sont même venus aux mains. Vous voyez? Mais nous avons la grâce d'avoir une église, votre église. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, hein, voyez-vous, mais une église qui essaye, autant que faire se peut, de marcher avec Dieu. Alléluia. Donc tout cela est le produit de la grâce de Dieu. Donc Dieu éprouve du plaisir, mes amis, à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour une existence plus épanouie, pour une existence merveilleuse. Alléluia. C'est dans la nature de Dieu d'éprouver du plaisir à donner à l'homme, fait à son image, tout ce dont il a besoin. Pourquoi la Bible nous dit que Dieu est tellement bon qu'il fait lever le soleil, et je pourrais dire qu'il donne le soleil, qu'il donne la lumière, aussi bien à ses enfants qu'aux méchants. Alléluia. Donc, le verbe donner est un verbe important dans le royaume de Dieu. Jésus l'a résumé dans Jean 3,16, un verset que nous connaissons tous par cœur, que tous les enfants de l'école de dimanche connaissent, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé l'humanité. L'humanité faite à son image, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Alléluia. Il a donné son Fils unique pour le salut de cette humanité perdue. Pour le salut de quiconque croit. Dieu éprouve du plaisir. Donc donner, mes amis, est un principe du royaume. Ce n'est pas parce que certains en abusent que nous devrions rejeter ce principe. Si nous réagissons de cette manière, eh bien, nous serions comme de ceux-là, comme disent nos amis américains, eh bien, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des abus, ce n'est pas parce qu'il y a des manipulations que nous devrions cesser, mes amis, de prêcher là-dessus. Le don, vivre dans un esprit de don est quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu et qui est même la manifestation de notre soumission à ce principe-là, donner avant de recevoir. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, dans une phrase concise, dans une phrase succincte, voyez-vous, mais une phrase, mes amis, remplie de richesses, que nous trouvons dans Acte 20. Et c'est dans la bouche de l'apôtre Paul que nous trouvons cette parole, quand il dit, comme le Seigneur lui-même l'a enseigné, comme le Seigneur lui-même l'a dit, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, si nous voulons, mes amis, expérimenter les richesses du royaume, nous devons apprendre à donner de tout notre cœur. Alléluia. à donner sans murmurer, pas sous la contrainte. Car Dieu n'aime pas ça. Dieu voudrait que nous apprenions à lui donner notre temps par amour, à lui donner notre temps en reconnaissance de tous ces bienfaits qu'il nous accorde. Alléluia. Donner avec, comme nous l'avons lu. Dieu aime celui qui donne de tout son cœur, que ce soit les offrandes, que ce soit la dîme. C'est pourquoi j'ai horreur de ce verbe qu'on utilise lorsqu'il est question de la dîme. Payer la dîme. On ne paye pas la dîme. La dîme est un acte d'obéissance, un acte d'amour et de reconnaissance envers le Seigneur. Voyez-vous? On ne force pas les gens, car Dieu aime celui qui donne de tout son. Ce n'est pas un impôt dont on s'acquitte. Voyez-vous? Voyez? Nous devons payer l'impôt, payer les différentes taxes. Mais lorsqu'il s'agit de la dîme, lorsqu'il s'agit de l'offrande, nous donnons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous donnons. Et non pas sous la contrainte. Et parce qu'on a amené les gens, parce qu'on les a mal enseignés, il y a des gens qui donnent par contrainte. Et en retour, ils ne reçoivent rien de la part du Seigneur. Car ce que nous faisons devient semence lorsque nous le faisons de tout notre cœur. Lorsque nous le faisons par reconnaissance au Seigneur. Lorsque nous le faisons par amour pour le Seigneur. Seigneur, ce que j'ai, eh bien, est le produit de ta grâce envers moi. Le travail que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Et comme nous en parlerons. Mes affaires prospèrent malgré un contexte de crise ou d'inflation, peu importe. Mais mes affaires prospèrent. En reconnaissant, Seigneur, je te donne. Et que quelquefois, on va au-delà. Voyez-vous? Pas payer. Alors, il y en a qui surveillent. Frère, mais tu n'as pas payé. Payé quoi? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup trouvent dans le ministère un créneau pour pouvoir vivre. Non, nous allons voir, le travail est aussi un sacerdoce. Et ceci fait beaucoup de dégâts. Ceci est à la base de beaucoup de problèmes. Ceux qui se sont improvisés pasteurs ou prédicateurs. Voyez-vous, nous on a travaillé. Moi je fais 10 ans. Et puis finalement j'ai arrêté pour répondre à l'appel. Oh Dieu m'a appelé. On bâcle les études. On ne veut plus travailler. Oh Dieu m'a appelé à chanter. Mais vous pouvez chanter pour Dieu en travaillant. Alors ainsi certains, ne pouvant plus vivre, eh bien, ils commencent à faire comme les gens du monde. Et là, ton don, ton talent ne sert plus à rien. Autant aller rejoindre les nombreux et innombrables orchestres qu'il y a dans Kinshasa. Vous allez chanter là-bas, en retour, on vous paye. Nous ne chantons pas pour payer, pour qu'en retour, Dieu nous paye. Si nous avons reçu cet appel, évidemment, Dieu peut nous mettre dans un contexte où, à partir de ce que nous faisons en retour, il nous bénit. Comprenez-moi bien. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, oh, Dieu m'a appelé, je dois chanter. Tu ne travailles pas? Ah non, mais je suis appelé à plein temps à chanter. Non, mes amis. Voyez? Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu, alléluia, nous conduire. Que Dieu soit béni, alléluia. Mais tout en connaissant combien ce verbe occupe une place importante dans le royaume de Dieu, nous avons, hélas, de la peine, des difficultés énormes à le conjuguer, oui ou non. Nous avons des problèmes à donner. Pourquoi? Parce que, d'abord, naturellement parlant, à cause du péché en nous, nous avons tendance à amasser, à accumuler, plutôt qu'à partager. Oui ou non? C'est parce qu'il y a quelque chose d'insatiable en nous. C'est parce que nous vivons dans un monde qui nous communique sa vision à lui. Et dans le monde, mes amis, tout est limité. Les ressources naturelles qu'il y a sur cette terre sont limitées. Nos propres efforts sont limités, oui ou non? Les moyens que nous avons sont limités. Donc nous vivons dans un monde où tout est limité. Et dans la plupart des cas, eh bien, ce monde finit par influencer notre esprit et nous amène à croire que si nous donnons, nous risquons de manquer. Voyez-vous? Si nous donnons, nous risquons de ne rien avoir en retour. Alors, autant s'accrocher, voyez-vous, à ce qu'on a pour ne pas le perdre. Mais Dieu nous dit, et il affirme dans sa parole, il promet qu'il pourvoira à tous nos besoins. Nous devrions laisser ces principes, mes amis, conduire nos vies, laisser ces principes, eh bien, nous conduire. C'est alors que nous serons à l'abri de cette peur qu'il y a à donner, à partager aux autres. Voyez-vous? À aller à la rencontre de ceux qui n'ont rien, les pauvres, les déshérités, les laissés pour compte, ceux dont la société ne veut plus, mes amis, des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens. Eh bien, c'est une opportunité pour nous de pouvoir nous rendre utiles en allant partager notre bonheur avec eux. Alléluia. Donc, la parole de Dieu devrait façonner notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière, mes amis, de marcher. Voyez-vous? Eh bien, avec le monde, nous avons pris l'habitude de penser et d'agir en termes de limites. Et ceci, souvent, suscite en nous la peur de manquer demain. C'est vrai. Ceci ne veut pas dire que nous ne devons pas agir de manière rationnelle. Vous voyez? Ceci ne veut pas dire que nous ne devrions pas avoir un bas de laine, hein, comme disent nos amis belges. Vous savez, les bas des dames, là, hein, qu'elles mettent surtout en hiver. Et à l'époque, les vieilles dames prenaient ces bas-là pour garder leur argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouverez cette expression, « mon bas de laine ». C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai accumulé. Vous pouvez avoir votre bas de laine, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Dieu n'est pas contre cela. Mais que cela ne vous pousse pas à un égoïsme tel que vous fermez les yeux sur les besoins qu'il y a autour de vous. Et en agissant de cette manière, mes amis, vous vous priverez du bonheur. Car c'est le Seigneur qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner, qu'il y a plus de bonheur à conjuguer ce verbe qu'à recevoir. Donc si nous voulons recevoir de Dieu, il faut semer, nous l'avons vu. Et nous récolterons en fonction de ce que nous aurons semé. Dans le monde, l'homme ou la femme qui réussit, eh bien, est l'homme ou la femme qui accumule, voyez-vous, n'est-ce pas? L'homme qui amasse, qui a tout un peu partout. Qui a des fermes partout, des résidences partout. Alors, selon les critères de ce monde, c'est un homme à succès. C'est une femme de réussite. Voyez-vous? Car pour le monde, celui qui a plus de biens gagne. Oui ou non? Et quelquefois, les gens sont évalués en fonction de ce qu'ils ont. Voyez, le magazine Forbes a l'habitude de publier, je crois, chaque année, les grosses fortunes. Voyez, je me demande c'est à quoi ça sert dans un monde où la misère, la pauvreté gagne de plus en plus nos pays, voyez-vous, mais alors on publie tel à tel milliard, tel autre le deuxième, le troisième, etc. Voyez, ça c'est le monde. Ces gens ont accumulé. Et il est vrai que parmi eux, il y a des gens qui sont généreux. Voyez-vous, car Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit fortuné, hein? Attention. Parce qu'il y en a qui ont échoué dans la vie. Et lorsqu'ils regardent des gens qui ont réussi sur le plan matériel dans leurs affaires, ils pensent que le diable est avec eux. Non. C'est faux. Le diable est aussi avec les pauvres. Vous savez ça? Eh oui. Il y a des gens qui ont beaucoup de biens et qui vivent comme si ces biens ne leur appartenaient pas et qui gèrent ça comme des simples intendants et qui laissent le Seigneur diriger leurs affaires. Alors il faut enlever cette idée-là. Parce qu'on nous a fait croire, voyez, que, voilà, pour être chrétien, il faut être pauvre, ne plus s'habiller normalement, marcher avec, je ne sais, de vieilles baskets en forme de hors-bord ou de pirogue. Voilà. Être spirituel, c'est mettre à peine un sac de raffia sur ce... Ouais. Ah, il est saint, non? Vous pouvez être saint tout en vous habillant. Comme il faut, alléluia. Voyez-vous, tout se passe en nous. Voyez-vous. Ne soyons pas de ceux qui ne regardent qu'à l'apparence. Voyez-vous? Vous voyez une sœur qui s'est maquillée. Oh là là, elle est charnelle. Vous pensez que la sainteté se trouve dans la longueur de la jupe? Hein? Ou dans la couleur de pagne. Non. Vous pouvez voiler votre tête, voiler votre visage et être vraiment immoral parce que tout se passe à l'intérieur. Et vous pouvez voir une sœur qui est bien habillée, une belle veste et tout ça, mais vraiment craignant Dieu. Alors essayons de nous débarrasser de ces clichés, de ces a priori. Voyez, nous avons été formatés d'une certaine manière. Dès qu'on voit quelque chose, ça c'est le péché. Vous savez que lorsque le pentecôtisme a commencé, nos pères dans la Pentecôte interdisaient aux gens de regarder le film, d'aller au cinéma. Et c'est le monde. Il ne faut même pas mettre le pied dedans. Vous voyez? Hein? C'était comme ça. Pour les femmes, oh là là. Il n'y a pas longtemps, mon épouse, on parlait, on s'est rappelé d'un pasteur français avec qui on avait partagé. Nous sommes retrouvés quelque part en Alsace, et qui aussi revenait à l'époque, parce qu'il est aussi presque de cette génération, mais il a évolué avec le temps. Il a dit, mais à l'époque, pasteur, il y avait ce qu'on appelait le chignon pentecôtiste. C'est-à-dire, comme il ne fallait pas aller dans un salon, vous faire un peu belle, les dames devaient laisser les cheveux. Mais à force de les laisser et à ne pas les entretenir, ça va jusqu'où? Alors, se retrouver, donc, tout le monde faisait des chignons, qu'on avait fini par appeler le chignon pentecôtiste. Voyez? Donc, attention, faisons attention à l'apparence. Voyez? Ce n'est pas parce qu'une sœur n'est pas maquillée qu'elle a atteint le summum de la sainteté. Elle ne se maquille pas. Hein? On voit ça. Le légalisme. Et ça, ça conforte les gens. Voyez-vous? La jupe doit avoir un certain nombre de coudées. Ouais. On ne doit pas montrer ceci. On doit s'habiller jusque-là. Ouais. Pas de montre, rien du tout. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas de montre, mais qui vont se retrouver en enfer. Il y a des gens qui ne mettent pas les phares ou je ne sais quoi, les dames. Vos... Bref, capenta ou quoi, là. Mais qui vont se retrouver en enfer. Ce n'est pas parce que vous ne le faites pas que le ciel vous sera ouvert. Ce n'est pas non plus parce que vous le faites que le ciel vous sera fermé. Le ciel nous est ouvert par Jésus et au travers de Jésus. Maintenant, ce que nous condamnons, c'est l'extravagance. Voyez. Voyez. De couleur rouge, vert, alors finalement, ça fait arc-en-ciel. Vous ne voyez même plus la personne. Quelquefois, vous détournez seulement le regard, vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est l'exubérance, voyez? C'est l'extravagance que nous condamnons. Mais on peut le faire tout en étant saint ou sainte. Alléluia. Donc, dans le monde, celui qui a plus de biens gagne. Mais le royaume de Dieu objecte au monde et nous dit ceci, celui qui donne le plus est le vrai gagnant. Alléluia. Donc, donner, mes amis, est un principe du royaume, un verbe que nous devrions apprendre à conjuguer régulièrement. Et ça, c'est un premier principe. Apprends, mon frère, ma sœur, et toi qui me suis ou nous suis à la télévision, apprends à donner ton temps au Seigneur, à partager ton temps aux autres. Apprends à donner ton temps à Dieu, à donner à Dieu ce qui lui revient, la louange. Tout cela, c'est le verbe donner. Apprends à donner pour contribuer à l'avancement du règne de Dieu, alléluia, du royaume de Dieu. C'est donc un verbe important. Car le règne de Dieu est une réalité, mes amis, que nous devons expérimenter au quotidien. Et Jésus l'a manifesté. Nous l'avons vu la fois dernière. Vous pouvez le voir à travers tous les évangiles, dans le livre des Actes. Partout, le règne de Dieu a été manifesté Les solutions ont été trouvées aux problèmes des gens.
Alléluia.
Nous avons parlé de la multiplication de pain. Il a fallu qu'un jeune homme qui avait 5 pains, 2 poissons, puisse consentir de le donner à Jésus pour que le miracle soit rendu possible, oui ou non. Eh bien, le miracle a été rendu possible parce qu'il y a eu un jeune homme qui a conjugué ce verbe. Il aurait pu garder son pain pour lui. Le Seigneur ne lui aurait jamais tenu rigueur. Il aurait pu garder ces 2 poissons pour lui, les manger. Sa maman lui avait préparé ses casse-croûtes, comme elle savait que son fils aimait beaucoup Jésus. Il dit, mon fiston, prends ça pour la journée, car toi, lorsque tu te mets à suivre ton Jésus, tu oublies même de manger. Il avait amené ça, mais il a consenti à le partager avec Dieu, à donner à Dieu. Ce qu'il a donné à Dieu, il ne l'a pas perdu.
Alléluia.
En donnant à Dieu, en permettant au Seigneur de multiplier cela, sa bénédiction a atteint le niveau optimal. Parce que cela a permis à ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui avaient faim, de pouvoir manger. Alléluia. On a tellement mangé qu'il est resté 12 paniers qu'on a remplis. Et je suis convaincu, comme je l'avais dit, même si la parole de Dieu ne le dit pas, le Seigneur étant juste, il a dû dire, écoutez, vous réservez un panier rempli de pain et de poisson à ce jeune homme-là. Et il est reparti à la maison. Il était sorti avec 5 et 2 poissons. Il revient avec quoi? Tout un panier. Mes amis, nous avons un Dieu de l'impossible. Ses ressources sont intarissables. Apprenons simplement à mettre le peu que nous avons entre ses mains et lui le multipliera.
Amen.
Anne, cette femme stérile, l'épouse d'Elkana, c'était la même chose. Quand Dieu lui a donné un fils, Samuel, eh bien, elle avait fait un vœu. Le jour où tu me visseras, Seigneur, tu me donneras un enfant. Je te le recommanderai, je te le dédierai, je te le consacrerai. Elle a été fidèle, elle est restée fidèle. Elle est allée donner cet enfant, quelque part, passez-moi l'expression, le déposer à Silo, là où il y avait la maison de Dieu. Elle est partie avec son enfant, avec elle, et quand elle revient, elle revient main vide. Pour les hommes, elle avait perdu, mais pour Dieu, elle avait semé. Car en retour, Dieu va lui donner 3 autres garçons et 2 filles. Donc, en ayant donné un enfant à Dieu, le Seigneur lui en a donné 5. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne se lasse point de nous faire du bien. S'il nous demande de donner, c'est parce qu'il veut nous faire participer à son plan. C'est parce qu'il veut nous faire partager son bonheur. Le bonheur se trouve dans la conjugaison de ce verbe, et non pas dans l'avarice, et non pas dans le fait d'accumuler, dans le fait de retenir. Voyez-vous, lorsque vous retenez comme ça, ben c'est fini. Vous ne gardez que ça. Hein? De temps à autre, vous regardez à gauche, à droite, vous ouvrez un tout petit peu, vous fermez. Ouais, voyez. Et puis après, vous ouvrez encore l'autre, vous relevez l'autre, vous mangez, vous refermez. Mais ça va s'épuiser, oui ou non? Oui. Au bout d'un certain temps, vous avez fait ça, vous avez commencé là, et puis là, et puis là, et puis là. À un certain moment, il n'y aura plus, mais vous allez vous retrouver toujours avec la main serrée. Alléluia. Eh bien, tout cela pour votre malheur. Dieu bénit tous ceux qui lui manifestent. Alléluia. Donc, c'est un principe important. C'est le premier. Le deuxième principe que je vais introduire, c'est le principe, mes amis, que nous trouvons dans ce passage. Le deuxième principe du royaume qui va nous permettre, mes amis, d'entrer de plein pied dans les ressources du Seigneur, d'expérimenter tout ce qu'il nous a promis, c'est le principe du travail. Oui, le travail. Encore le travail et toujours gloire au Seigneur. Il faut faire la différence entre le travail et la corvée. Voyez, au Moyen-Âge, à l'époque, les seigneurs avaient des paysans qui devaient travailler pour eux ou pour le roi. C'était la corvée. Voyez, la corvée, c'est ce travail rebutant, pénible, que quelqu'un accomplit et puis comme ça. On le force. Voyez-vous, comme une bête des sommes. Non!
Le travail, mon frère et ma sœur, est une vocation que Dieu adresse à l'homme. Avant de donner une femme à l'homme, c'est-à-dire Ève, avant de donner donc Ève à Adam, avant de donner un fils à Adam et à Ève, plutôt à Adam, le Seigneur lui a donné un travail. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, c'est là que nous voyons, mes amis, la base de la notion même du travail. Dieu a doté l'homme de toutes sortes de ressources. Il l'a doté de toutes sortes de talents. Il lui a donné toutes sortes de facultés, mes amis. Non pas pour qu'il reste comme ça, en stérilisant, passez-moi l'expression, en stérilisant tout cela par une vie d'oisiveté absolue, d'inactivité absolue. Voyez-vous? Non. Dieu lui a donné tout cela. Voyez? Et il attendait à ce qu'en retour, il puisse mettre tout cela en valeur. Et le travail, eh bien, Dieu l'a donné à l'homme, justement, pour qu'il puisse se rendre utile par rapport à la création, qu'il puisse participer à la production, qu'il puisse participer à la création, alléluia, qu'il fasse avancer l'œuvre de Dieu, le travail, important, voyez, le travail. Mon père travaille, moi aussi, je, mes amis, nous avons ici une des lois, un des principes du royaume de Dieu. Le travail comme sacerdoce. Et non pas une contrainte, une activité contraignante. Le travail comme sacerdoce. Le travail comme une vocation. Peu importe sa nature. Mon frère et ma sœur, le travail que tu as, peu importe sa rémunération, tu devrais le considérer comme quelque chose qui vient de la part de Dieu et dans lequel tu es appelé à trouver la joie, le bonheur. Beaucoup ne s'épanouissent pas parce que, tout en ayant le travail, ils ne le font pas comme il faut. Surtout nos fonctionnaires. On s'arrange pour que quelqu'un d'autre pointe à votre place. Ou signe à votre place. Voyez? Vous avez toujours des excuses. Mais aux yeux de Dieu, vous péchez. Puisque vous êtes payé pour prester 8 heures. C'est 8 heures, non? Ouais. Maintenant, si vous devez partir, il faut signaler. Ouais. Nous devons travailler parce que cela vient de Dieu. Nous devons travailler, voyez-vous, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit comme ça. Adam, dès le départ, Dieu lui a donné la responsabilité de garder, de veiller le jardin d'Éden. Oui ou non? Dieu lui a donné la responsabilité de donner les noms aux animaux. Ça ne devait pas être facile. Adam n'avait pas le don d'ubiquité. C'est-à-dire, il ne pouvait pas être partout en même temps. Il vivait dans un contexte spatio-temporel dont il devait se déplacer. Aller voir les perroquets. Ok. Et puis se retrouver avec les moutons. Donc ça ne devait pas être facile. Vous savez combien d'espèces animales avons-nous? Hein? Beaucoup, hein? D'ailleurs, on n'arrête pas d'en découvrir, hein? Voyez-vous? Donc, et lui était chargé, donc il travaillait. Le travail est venu avant le mariage. Le travail est venu avant que l'homme se mette à multiplier, à remplir la terre. Voyez-vous? Donc, Dieu en donnant à l'homme, ce travail lui a donné une vocation. Et nous devrions considérer ce que nous faisons. Et quelquefois nous le faisons dans des conditions très difficiles. Nous devrions le considérer d'abord comme étant, mes amis, un sacerdoce. Car pour Dieu, le travail est important dans la vie des humains. C'est la raison pour laquelle il a consacré un commandement pour le travail. Parmi les 10 commandements, nous trouvons un commandement qui parle du travail, qui met en évidence le travail. Eh bien, que nous dit la parole de Dieu? Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage.
mais le septième jour, tu ne feras aucun ouvrage. Tu te reposeras. C'est Dieu qui parle. Mais ce qui est arrivé, mes amis, c'est dans Exode 20, 9 à 10, là on parle des 10 commandements, et c'est répété dans Exode 34, verset 31. Ce qui arrive, malheureusement, pas seulement aujourd'hui, mais avec le péché qui a entraîné un déséquilibre dans la vie de l'homme, c'est que, par rapport à ces commandements, on a mis beaucoup d'accent sur le repos, oui ou non. On a mis beaucoup d'accent sur le Shabbat ou le sabbat. Sur le repos, l'homme doit se reposer. Mais si vous regardez bien, ce qui est d'abord mis en évidence, c'est la notion du travail. Tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre travail compte pour Dieu. Et nous devrions agir parce que cela est agréable aux yeux de Dieu. Maintenant, si nous avons un patron véreux, si nous avons un patron malhonnête, eh bien, nous le recommandons au Seigneur. Mais nous devons d'abord et avant tout considérer ce travail comme étant une bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme une bénédiction. Travailler doit être considéré par chacun de nous comme un principe du royaume. Et à chaque fois que nous travaillons, eh bien, nous enclenchons ce principe-là. Et en travaillant, Dieu nous bénira. Et je vous dirai que ce principe marche même pour ceux qui ne sont pas du royaume des cieux. Oui ou non? Les nations qui avancent, ce sont les nations qui ont compris l'importance du travail. L'importance où chacun doit se lever et contribuer à l'avancement de son pays par le travail. Voyez-vous? Mais il fut un temps où le travail n'avait plus sa place. Où les gens pouvaient danser du matin au soir, sacaillons ça, et gagner leur vie. Voyez. Ainsi, les gens abandonnaient le travail. Et beaucoup de ceux qui dansaient, où sont-ils aujourd'hui? Voyez, mes amis, le travail est quelque chose de sacré. Nous devons être des hommes et des femmes qui considèrent le travail, mais alors un travail qui ne nous met pas en porte-à-faux, hein, avec la parole de Dieu, attention. Vous n'allez pas ouvrir une maison de passe, utiliser des prostituées en disant, bon, c'est pour avoir un peu d'argent, c'est pour leur donner du travail. Ces femmes qui se prostituent n'ont pas besoin de prostitution. Elles ont besoin du Seigneur, et puis un jour, elles ont besoin d'un mari. Ça, c'est un travail qui ne glorifie pas le Seigneur. Ou alors se prostituer. J'avais suivi, je vous avais dit, un témoignage terrible d'une femme qui se prostituait à la télé, hein, c'était passé dans un documentaire, et qui disait qu'avant d'aller se prostituer, son pasteur lui donnait la bénédiction. Ici à Kinshasa. C'est d'ailleurs la RTBF qui avait fait ce reportage. Alors elle disait, hein, innocemment, elle dit, avant de partir, le pasteur prie pour moi. Comme ça, si je, par exemple, je tombe sur un homme qui me donne 100 dollars, le pasteur reçoit 10 dollars. Donc, si j'en trouve un qui me donne 250 dollars, le pasteur a combien? Ça, ce n'est pas un travail. Ça, c'est une malédiction. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Voyez-vous? Le travail, non seulement comme un moyen, mes amis, de gagner sa vie. On a besoin d'argent pour vivre. Mais le travail d'abord, comme l'occasion d'assumer quoi? La vocation que nous avons reçue de la part de Dieu. Alléluia. Mon père travaille, moi aussi je... On peut aider quelqu'un parce qu'il n'a pas de travail. Mais on ne doit pas l'aider ad vitam aeternam, éternellement. Ça serait lui rendre un très mauvais service. Car lorsqu'on n'a pas du travail et qu'on doit se battre, le côté positif, c'est que ça développe en nous quelque chose. Alléluia. Ceux qui sont arrivés dans la vie, ce sont ceux qui ont appris à se battre. Voyez-vous? Mais ceux qui attendent tout. Eh bien, vous pouvez aider quelqu'un, aider tout le temps, tout le temps. À un certain moment, il faudra arrêter, lui dire, écoutez, mais vous pouvez travailler.
L'assistance est indispensable, mais ne doit pas être éternelle. Voyez-vous? Nous devons aider quelqu'un à trouver du travail, comme les Chinois le disent. Si vous donnez un poisson à quelqu'un, il le mange, il le bouffe, et puis c'est fini. Et puis demain, il attend encore que vous lui. Mais si vous lui apprenez à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est ça, mes amis. Il y a des obstacles dans la vie. Il y a des épreuves dans la vie comme le chômage. On quitte l'université, on ne trouve pas du travail, mais on ne baisse pas le bras. Si on n'est pas pris comme fonctionnaire, eh bien on peut prier pour que le Seigneur vous donne de la créativité, peut-être pour démarrer une entreprise. Nous devons prier pour l'esprit d'entrepreneuriat. Ne pas toujours attendre à ce qu'au ministère des Finances, on vous recrute. Mais on va recruter comment? Combien? Parce que pratiquement dans toutes les universités, ici, il y a la faculté d'économie. Vous connaissez le nombre d'économistes qui sortent chaque année. Hein? Dites-moi. On va vous engager combien? Les médecins, c'est la même chose. Bon, le médecin, on en a besoin. Vous voyez? Puisqu'il n'y en a pas encore assez. Mais il y a les juristes. Pensez qu'on va avoir un cabinet d'avocats au coin de chaque rue. Il y en a qui sont au chômage. C'est là que nous devons aussi faciliter le travail de la main. Vous pouvez être boulanger et puis devenir un jour un grand homme d'affaires. Quelqu'un m'a vu, m'a dit, pasteur, j'ai commencé la boulangerie. Gloire à Dieu! Nous, on attend. Mais j'attends mon oncle. On lui avait fait la promesse qu'il serait au cabinet, je ne sais qui. Mais oui, mais ça, c'est une promesse. Ton oncle n'est pas sûr qu'il sera pris. Parce que combien lorgne sur le même poste là? Vous faites ça, c'est très bien. Mais en même temps, vous priez, vous cherchez autre chose. Alléluia. Vendre des petits... C'est aussi un travail. Faites-le pour le Seigneur. N'escroquez pas les gens. Il y en a pour avoir un papier qui est votre droit, il faut donner 20 dollars. Si vous êtes là ce matin, s'il vous plaît, c'est la corruption, votre travail deviendra une malédiction. Vous revenez avec de l'argent que vous extorquez aux gens. Vous achetez à manger à vos enfants. Mais vous leur faites boire de l'eau empoisonnée. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Et vous, dans votre... Et puis un jour, 20, 10 ans, le problème de tout ça, c'est que les conséquences ne viennent pas tout de suite. Et puis les enfants tournent en rond, mes enfants sont drogués, tout ça. Mais avec quelle eau? Tu les as nourris. Ou tu les as fait boire. Nous devons être des gens honnêtes. Nous faisons ce que nous pouvons, alléluia. Si on veut nous entraîner dans la corruption, nous disons non. Dieu n'a pas besoin d'artifices de ce genre pour nous bénir. Et si nous faisons ça, Dieu est capable de nous bénir. Alléluia. Pour terminer, nous continuerons la fois prochaine. Donc voyez-vous, mes amis, c'est un principe. Un principe important que celui de considérer le travail. Et je peux vous assurer que c'est un fait établi. Tous les historiens savent, peuvent vous le dire. Même dans des universités à prédominance libérale, extrêmement libérale, laïque, tout ce que vous voulez, ou laïciste, le reconnaissent. Les pays d'arrière-plan protestant ont beaucoup profité de la réforme protestante qui a eu une des conséquences merveilleuses, la révalorisation du travail. Et les gens ont commencé à travailler pour servir Dieu. Et c'est ainsi que ce pays a commencé à s'enrichir. C'est-à-dire que les gens n'allaient pas travailler d'abord pour nourrir leur ventre. Dans une société extrêmement religieuse, où tout le monde se met à travailler pour servir Dieu, vous pouvez vous imaginer comment l'économie, tout d'un coup, avait décollé. Les gens se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Voyez, des gens créaient des emplois pour donner l'occasion aux chômeurs de travailler, de servir Dieu. Vous voyez? Et ça a eu un impact terrible. C'est ce qui fait d'ailleurs la culture germanique aujourd'hui est réputée pour être une culture de bosseurs. Hein. Quand vous parlez avec un Allemand, il dit « Oh, les Allemands travaillent ». Ça, c'est une des conséquences du protestantisme. Et nous devrions être des hommes et des femmes qui travaillent. Je crois que le pays en a besoin. Alléluia. Des gens qui considèrent le travail comme sacerdoce. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Père très saint, nous bénissons ton nom pour ces principes du royaume qu'est le travail. Tu travailles encore aujourd'hui. Nous sommes le produit de ton travail.
Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est parce que tu n'arrêtes pas de travailler. Tu entretiens la création que tu as faite. Tu la soutiens, Seigneur. Et tu nous demandes, ô Dieu, d'agir de la même manière. Aide-nous à réaliser que travailler est une opportunité pour nous de pouvoir te servir. Est une opportunité de pouvoir, ô Dieu, contribuer à la création. À la création, ô Dieu. Contribuer, ô Dieu, à l'avancement. Que ce soit de l'économie. Et de permettre aux autres de pouvoir bénéficier de tout cela et vivre mieux. Que tu donnes de travailler avec sérieux, avec responsabilité, là où nous sommes, avec consécration, que nous n'utilisions pas le travail comme un moyen de nous enrichir au détriment des autres, mais plutôt comme une occasion de te servir. Et si nous avons, Seigneur, une entreprise, que ce soit une occasion de donner du travail à d'autres, afin qu'ils puissent avoir l'occasion de te servir eux aussi, par ce travail et au travers de ce travail. Merci de bénir ce message dans nos cœurs, de nous aider, Seigneur, à grandir dans ce principe du royaume, car tu es contre l'oisiveté. Tu es contre, Seigneur, toute forme d'assistanat inutile. Tu veux que nous revalorisions le travail. Tu veux que nous nous levions au Dieu et que nous nous attendions à toi pour que tu nous donnes des idées. Il y a peut-être, Seigneur, des entreprises qui n'ont jamais vu le jour sur cette terre. Et que tu aimerais, ô Dieu, qu'elle puisse voir le jour. Et pour cela, donne-nous d'avoir de la créativité. Seigneur, ô Dieu, de ne pas toujours se contenter de ce qu'il y a, mais de chercher toujours à performer, de chercher toujours à innover, de chercher toujours à aller de l'avant, Seigneur, de chercher toujours à lancer des entreprises pour créer des emplois afin de donner du travail aux gens. Et en agissant de cette manière, eh bien, nous contribuerons à ta gloire. Et Seigneur, et cela permettra à certains de retrouver la dignité qu'il y a à pouvoir travailler, Seigneur, et gagner sa vie de manière décente. Merci Jésus. Bénis ce service des offrandes et des dîmes. Que ce soit une occasion de pouvoir te donner ce que nous avons préparé de tout notre cœur. Merci Maître. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.